Suivez Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous et d'abord un grand merci collectif parce que vous avez été extrêmement nombreux à suivre notre émission de la semaine dernière, notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, le financier ivoirien Stanislas Zézé. Plus de 300 000 vues pour les vidéos que nous avons postées sur notre page Facebook RFI Echo, où vous pouvez suivre au quotidien l'actualité économique internationale. Vous pouvez d'ailleurs y retrouver l'intégralité de l'émission mise en ligne sur la chaîne YouTube de RFI. Je referme la parenthèse. Bienvenue pour un nouvel Écho d'ici, Écho d'ailleurs, en plusieurs parties cette semaine. Parce que l'actualité est multipolaire, nous serons à Pékin, à Washington, nous serons en Afrique et avec les livreurs Uber à Paris. Reprenons le fil de la semaine. Le Fonds monétaire international tenait ses réunions d'automne pour dévoiler des prévisions toujours plus sombres.
The three largest economies, the United States, China and the euro area, will continue to stall. In short, the worst is yet to come and for many people 2023 will feel like a recession.
Les trois premières économies, États-Unis, Chine et Europe, en difficulté, la récession en 2023 pour beaucoup de gens. Le pire est à venir, annonce Pierre-Olivier Gourinchat, chef économiste du FMI. Le Fonds monétaire international, pas spécialement optimiste non plus pour le continent africain. Nous serons en ligne de Washington avec le chef des études régionales pour l'Afrique. L'impact de l'inflation, de la dépréciation des monnaies locales, le poids de la dette, la fiscalité, les enjeux climatiques. Et parmi les préoccupations du moment, l'approvisionnement en carburant, exemple en Centrafrique.
Nous, les conducteurs de taxis et bus, qui sont les moteurs de la circulation de la ville, c'est tout un tas de problèmes pour nous pour avoir du carburant. Sur une semaine, il faut perdre 4 jours à la station et donc ça pénalise vraiment notre travail.
J'ai passé la nuit là-bas à la station, j'ai dit à ma femme que voilà, comme je n'ai pas eu le carburant, donc je suis obligé d'aller dormir dans le véhicule pour mieux sécuriser ma voiture.
Tu es allé à l'arrestation, tu fais 2 jours, 3 jours, tu vas avoir seulement le carburant de 5 000 francs, 10 000 francs, ça ne force pas.
En Afrique comme ailleurs, on cherche de l'énergie, climat alourdi par la guerre en Ukraine. La Chine, elle aussi, s'interroge sur son avenir. 20e congrès du Parti communiste, comment relancer la machine malgré la politique zéro Covid, malgré les tensions planétaires et alors que les grandes entreprises, notamment dans la technologie, nourrissent des rapports compliqués avec le pouvoir. Que va devenir le secteur privé, le moteur du boom à la chinoise? Je reçois dans un instant l'auteur d'un ouvrage Dragon Tactics qui dévoile les secrets de sa réussite. Nous serons en ligne avec notre correspondant Stéphane Lagarde qui observe de près cette Chine en plein mouvement. Voilà, le programme est riche, il n'y a plus qu'à écouter, puis à partager et commenter sur notre page Facebook RFI Echo. Quelques-uns et quelques-unes de nos nouveaux abonnés, Mariama Camara de Conakry, Esther Nguetta d'Abidjan, Jimmy Darrel de Brazzaville. Bonne émission à toutes et à tous.
Chers représentants, le Parti communiste chinois, 19e Assemblée Générale, maintenant,
souvenir de 2017, l'ouverture du 19e congrès du Parti communiste chinois à Pékin. Son secrétaire général Xi Jinping, acclamé à son entrée par les quelques 2300 délégués présents. Il s'agissait, selon les mots de leur leader à l'époque, de faire triompher le socialisme à la chinoise et de lutter sans relâche pour réaliser le rêve chinois du grand renouveau de la nation. À l'époque, tout allait bien, les grandes entreprises à la manœuvre pour l'avènement de la prospérité commune voulu par Xi Jinping. Et maintenant, 5 ans plus tard, le 20e congrès, à l'heure de ce rendez-vous majeur pour la 2e économie mondiale, où en est ce secteur privé si important pour le développement de la Chine avec ses méthodes bien spécifiques? On en parle avec l'auteur d'un livre sur le sujet. Bonjour Sandrine Zerbib.
Bonjour.
Sandrine Zerbib, vous avez présidé la filiale d'Adidas en Chine pendant de nombreuses années et vous dirigez maintenant Fulljet. C'est une société spécialisée dans le commerce électronique. Vous avez des équipes à Shanghai, à Hong Kong et à Paris, c'est bien cela ?
Tout à fait.
Dans ce livre, Dragon Tactics, vous détaillez les recettes pour réussir dans ce pays au potentiel énorme, mais où il ne faut pas se tromper. Dites-nous déjà un peu qui vous êtes, quel est votre parcours, qu'est-ce qui vous a mené à écrire ce livre ?
Donc, la vie a fait que j'ai eu la possibilité d'aller en Chine au début des années 90 et d'être très surprise par un environnement que je connaissais pas du tout, du tout. À la fois, j'ai trouvé ça très difficile puisque je ne comprenais pas la langue, je comprenais pas vraiment mon environnement, mais en même temps, clairement, j'avais senti que ça allait être un épicentre très important. Et donc, j'ai voulu absolument rester. Donc, je connaissais par la banque le nouvel actionnaire, Robert Louis Dreyfus d'Adidas. Et je suis allée le voir et je lui ai demandé, en fait, si je pouvais monter son business en Chine, enfin, le business d'Adidas. Et contre toute attente, parce que c'est vraiment un entrepreneur qui faisait des paris sur les gens, parce que par ailleurs, je ne cochais aucune case, il m'a dit oui. Et ça a été le début d'une aventure qui a duré 28 ans. Alors, pas 28 ans chez Adidas, mais 28 ans en Chine. Toujours avec une approche des consommateurs chinois.
Alors, dans votre livre, vous décrivez les réussites et les échecs d'un certain nombre d'entreprises étrangères en Chine. Et le déclencheur de votre ouvrage, c'est 2019. Qu'est-ce qui s'est passé ?
En 2019, on a vu Carrefour, donc, qui avait très bien réussi au début, mais jeter l'éponge, parce que ça ne marchait plus pour eux, et décider de se retirer de la Chine et de vendre leur filiale chinoise à une entreprise locale. Ça faisait suite à un certain nombre d'autres entreprises occidentales qui venaient de jeter l'éponge et qui étaient des entreprises occidentales très puissantes dans leur pays d'origine, voire même dans le reste du monde. Et effectivement, c'était troublant de se dire qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'une entreprise qui avait réussi au début, finalement, n'y arrive plus. Et disent « je n'arrive plus à faire face à la concurrence locale, j'ai raté quelques marches, j'ai été trop lent à m'adapter à un monde qui a changé ». Et j'y arrive plus du tout, donc je m'en vais.
C'est spécifique à la grande distribution ?
Non. Non, puisqu'en fait, on a vu toutes sortes d'échecs. Je décris dans le détail, par exemple, l'échec d'Amazon en Chine. Amazon, ce n'est pas vraiment de la grande distribution. On a vu aussi un certain nombre d'entreprises dans la mode, dans les jouets. Enfin, on a vu pas mal d'entreprises qui ont décidé que ça ne marchait pas pour eux et qu'ils n'y arrivaient pas. Et puis, petit à petit, on a vu se dessiner des compétences qui étaient propres aux entreprises privées chinoises et qui leur ont permis, effectivement, de tailler des croupières aux Occidentaux.
Je voudrais qu'on reste sur le cas d'Amazon. Vous dites qu'Amazon a échoué, alors qu'Alibaba, le concurrent chinois, lui, a formidablement réussi. Ça n'était pas un choix politique ? Des autorités chinoises de promouvoir Alibaba et d'éliminer Amazon ?
Ah non, vraiment, je ne pense pas du tout que ce soit la lecture qu'il faille avoir sur cette situation, mais pas du tout. Je pense vraiment que c'est Amazon qui ne s'est pas du tout adapté au marché chinois, qui a souhaité en fait faire ce qu'il faisait dans le reste du monde, alors qu'Alibaba a au contraire été extrêmement flexible, à l'écoute des utilisateurs, de leur situation particulière, et a inventé des modèles qui convenaient aux utilisateurs et aux consommateurs locaux.
Donc c'est la compréhension du consommateur, c'est ça qui est décisif quand on veut travailler en Chine, s'adapter à l'évolution des mentalités ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'observation, déjà, qualité qui est très, très développée chez les entrepreneurs locaux chinois, la capacité d'observation du consommateur. Donc, partant de l'observation, il y a effectivement l'adaptation et la volonté d'adaptation. Parce que les raisons pour lesquelles Amazon ne s'est pas adapté, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pu, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu. C'est en fait parce qu'ils étaient persuadés que leur modèle était supérieur. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même dans la plupart des cas la façon dont ça se passe. Il y a une perception différente des modèles. Et à contrario, vous avez des entreprises locales qui, elles, sont prêtes à jouer le jeu de leur marché, puisque c'est leur marché d'origine, et qui sont beaucoup plus flexibles pour s'adapter aux consommateurs locaux.
Vous restez avec nous, Sandrine Zerbib. On est aussi en ligne avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde. Bonjour Stéphane.
Bonjour Bruno.
Stéphane, vous qui connaissez aussi très bien ce pays et ses mentalités, vous qui observez les entreprises, est-ce que la raison d'un échec comme celui d'Amazon en Chine, elle est liée à un fossé culturel ou est-ce que ce sont tout simplement les pratiques d'Amazon qui n'ont pas convenu ?
Alors je pense qu'il y a... Bon, d'abord, je connais beaucoup moins les entreprises que votre invité, hein, simplement, mais je pense que quand elle parle d'intelligence, quand vous dites l'intelligence et l'adaptation, effectivement, il y a cette agilité, on va dire, des entreprises chinoises. Alors ça va du vendeur de rue, hein, je vais vous donner un exemple tout bête, mais s'il pleut ici, moi j'ai 3 vendeurs de parapluies autour de moi en 2 minutes. Voilà, et effectivement, pour ce qui est d'Alibaba, c'est pas simplement un service de livraison, c'est beaucoup plus que ça. Alibaba, on sait qu'il y a un service de paiement, il y a tout plein de choses. Donc voilà, donc effectivement, ça s'est adapté aux consommateurs locales qui ont fourni plein de services d'un seul coup. C'est d'ailleurs ce que veut faire Tesla, si j'ai bien compris, avec Twitter. Il voudrait proposer quelque chose de multiservice. Le problème aussi, c'est que pour les entreprises, alors je ne sais pas si c'est culturel, mais c'est vrai qu'on a quelques règles en Occident qui ne sont pas forcément les mêmes ici. Et on parlera peut-être plus tard du capitalisme rouge aujourd'hui, qui est quand même menacé par plein de retours et par de l'idéologie. Mais on ne sait pas aussi qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire ici. Et on a des schémas mentaux, en tout cas, qui empêchent de développer d'autres choses. C'est peut-être ça aussi. Moi, je sais que pour Carrefour, ça m'avait touché. J'étais là aussi et j'avais un ami qui travaillait à Carrefour et lui, pour lui, c'était pas une surprise. Pour nous qui sommes journalistes ici, on se disait c'est pas possible. Moi, j'allais faire mes courses à Carrefour à Pékin. On pouvait pas imaginer que ça ferme du jour au lendemain. Il y avait des robots dans les rayons à Carrefour, enfin alors, vous voyez, c'était très avancé même. Et on s'est demandé pourquoi. Alors, on a tout de suite dit, les journalistes ici, c'est à cause du e-commerce. C'est vrai que les gens, enfin, moi je vois, on va presque plus faire des courses en magasin ici, hein, quand même. Il faut imaginer le e-commerce en Chine, ce que ça représente. On achète tout quasiment par les livreurs. Donc il y a ça, mais c'est pas simplement ça, m'avait dit le cadre de Carrefour. Il m'a dit que c'était aussi un problème de management. Alors j'ai oublié ce qu'il m'avait dit exactement, mais il y a effectivement ce problème d'adaptation.
S'adapter en permanence, expérimenter, accepter des échecs peut-être, et puis l'importance de la data, la technologie au service du commerce, au service de l'entreprise, Sandrine Zerbib.
Absolument, parce que en fait, quand on parle de capacité d'observation exceptionnelle, qui est vraiment, je pense, une caractéristique des entreprises privées chinoises, ancrée dans une culture chinoise particulière, c'est-à-dire que assez différente de la nôtre, où on pense plutôt que ce qui est important, c'est de penser bien. Les Chinois vont penser que c'est d'observer bien. Mais quand vous mettez la data au service de cette observation, et ensuite que vous agissez avec beaucoup d'adaptation, enfin de capacité d'adaptation et de flexibilité, vous avez effectivement un tiercé gagnant. Et la data, c'est venu en fait s'inscrire dans ce cadre-là, c'est-à-dire comment je peux mieux observer encore et de façon plus scientifique mon consommateur avec la data.
On a commencé à aborder le sujet du management, qui est très particulier aussi en Chine. Vous écrivez dans votre livre « L'empereur décide, mais l'agilité règne ». Il y a le chef, hein, forcément, qui décide, mais à l'intérieur de l'entreprise, il y a aussi de la souplesse. Expliquez-nous.
Alors, cette souplesse, elle vient de plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'en fait, il y a le chef qui a effectivement un pouvoir, pas absolu, mais pas loin. Et en revanche, il y a sous le chef, ça va être assez horizontal. C'est-à-dire que le chef, il va avoir énormément, en fait, en Occident, on trouverait que c'est beaucoup de gens, beaucoup trop de gens à manager, en fait.
Donc beaucoup moins pyramidal.
Voilà, beaucoup moins pyramidal. Ça veut dire, et même quand il y a une pyramide, le chef s'autorise autant qu'il le souhaite, à ne pas respecter la chaîne de commande et à parler à qui il veut dans la pyramide. Ce qui est très différent de nos mentalités, où on pense qu'il faut effectivement passer par la chaîne de commande et respecter les territoires respectifs des managers dans la pyramide. Ce n'est pas du tout la façon dont on va fonctionner en Chine.
On pense par projet et pas en silo, pas en département.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'on peut faire travailler des gens ensemble, venus de différents services, plus facilement qu'ailleurs.
Absolument. Donc, en fait, moins vous avez de pyramides, plus c'est possible d'ailleurs. Hein. Moins vous avez de situations pyramidales, plus vous pouvez créer des équipes ad hoc et casser en fait la structure de base, ce que font les Chinois extrêmement volontiers. Et puis l'autre aspect qui est aussi très particulier, c'est qu'on n'hésite pas à dire « j'envoie deux équipes travailler sur le même sujet et on va voir qui revient gagnant ». Peut-être que ça duplique les ressources, mais d'un autre côté, s'il y en a un des deux qui gagne, ça emporte tellement de valeur que franchement, la duplication des ressources, c'est peanuts à côté.
Ici, en Europe, en France, hein, puisque c'est là qu'on est, ça mettrait le bazar dans une entreprise.
Oui.
Hein, parce que les gens se diraient, bah, pourquoi on nous met en concurrence? C'est impossible d'être en concurrence dans la même entreprise.
Effectivement, c'est pas mal perçu d'être en concurrence dans la même entreprise, que ce soit un petit groupe, une petite équipe, où on va avoir donc deux équipes qui vont être en concurrence, ou que ce soit des individus. On va créer ce qu'on appelle une course de chevaux, en fait, à l'intérieur de l'entreprise, et que le meilleur gagne.
Stéphane Lagarde, vous ressentez ça aussi quand vous rencontrez des salariés, cette possibilité de participer à la vie de l'entreprise et cette possibilité aussi d'être mise en concurrence avec d'autres employés de la même entreprise ?
Alors oui, mais à tel point qu'il y a quand même de la pression pour le coup. Alors c'est vrai qu'ici on peut mettre deux équipes sur un même terrain. Pour l'instant les salaires ont beaucoup augmenté, mais ils restent quand même moins élevés que chez nous. Donc c'est aussi ça, c'est qu'il y a une pléthore d'employés. À chaque fois, moi je suis surpris par le nombre d'employés pour un poste. Mais il y a aussi de la pression aujourd'hui. On a parlé beaucoup du 9-9-6, là, du 9h, 21h le soir, 6 jours sur 7, les métiers de la technologie. Là je suis revenu, il y a encore quelques jours, j'étais voir des jeunes à Pékin, près des universités. Même dans les grandes universités, beaucoup se posent des questions, comme nous on a pu s'en poser avant. Mais aujourd'hui, de la pression, est-ce que ça vaut le coup? Bon, d'abord il y a du chômage, mais il y a aussi cette concurrence justement est quand même très douloureuse aussi, d'une certaine manière, pour certains jeunes. Et donc, ce qu'on appelle la YALI, la pression ici, certains ne veulent plus travailler dans les groupes technologiques. Ils le font parce que c'est quand même, c'est là où il y a de l'emploi. Hein. C'est vraiment partout, la technologie ici. Mais quand même, moi, je mettrais juste ce bémol-là. Effectivement, il y a ces ressources, il y a cette intelligence, cette concurrence. Et puis, c'est vrai, l'envie de réussir. Mais il y a aussi parfois beaucoup de pression. Et certains, aujourd'hui, ce qu'on appelle le tangping ici, c'est-à-dire faire la planche. Maintenant, on dit laisser pourrir. Donc, c'est une façon laisser courir, quoi. Les jeunes qui veulent plus. Moi, j'ai vu, là, j'étais très étonné dans le quartier de Haidian, qui est vraiment un quartier des nouvelles technologies avec des jeunes qui ont fait des études brillantes qui me disent moi je vais peut-être tout plaquer et aller dans le Yunnan, donc dans les montagnes dans le sud, faire autre chose, faire de la poterie ou ce que vous voulez. Donc voyez, il y a vraiment aussi ça aujourd'hui, il y a quand même un peu aussi un découragement face à cette pression.
Sandrine Zerbib, vous l'avez vu venir, cette grande démission à la chinoise?
Alors c'est pas une grande démission, mais enfin c'est clair qu'aujourd'hui en fait, de toutes les caractéristiques des entrepreneurs chinois qu'on décrit dans le livre, celle qui est la plus remise en cause c'est ça, c'est précisément ça. Donc effectivement le 996 est complètement rejeté aujourd'hui dans la jeunesse. Et d'une façon générale, la jeunesse chinoise est beaucoup plus soucieuse de ce qu'on appelle en anglais le work-life balance que n'étaient les générations précédentes.
C'est-à-dire l'équilibre entre
le travail et la vie privée. Voilà, effectivement. Donc ce souci, ça change pas mal d'aspects des choses, mais je pense que ce n'est pas fondamentalement antinomique avec la concurrence interne.
Et avec cette culture de la performance. Sandrine Zerbib, votre livre s'intitule « Les tactiques du dragon », mais vous filez une autre métaphore animalière, celle de la culture du loup, initiée par Reng Zhengfei, qui est le fondateur de Huawei, que je cite. « Être une entreprise, c'est parvenir à former une meute de loups, parce que les loups survivent grâce à trois traits de caractère, un odorat aiguisé, une volonté offensive, indomptable, la lutte en meute, une culture d'entreprise qui a fait, dit-il, de Huawei un loup et qui empêche les multinationales de dormir. Le flair du loup, être à l'affût de l'aubaine, ne pas être trop prudent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Alors oui, la culture du loup est peut-être ce qu'il y a de plus décrié dans les tactiques du dragon aujourd'hui, précisément parce qu'elle inclut d'abord un côté très offensif que les nouvelles générations sont moins prête à accepter, mais au-delà du côté offensif, c'est aussi toutes ces pressions, ce sens extrême du sacrifice, même s'il n'est pas complètement annulé. C'est quelque chose qu'on voit dans les sociétés asiatiques beaucoup plus que chez nous, de toute façon. Mais ça, effectivement, c'est très décrié, et Stéphane le disait bien, le 996, c'est rejeté aujourd'hui. Mais malgré tout, dans la culture du loup, tout ce qui est flair et donc capacité à saisir des opportunités, parce que j'ai observé ce qui se passait autour de moi, ça, c'est vraiment des choses très intéressantes qu'il faut, je crois, regarder de très près et peut-être s'en inspirer dans certaines circonstances. Et puis, le fait de chasser en meute, en quelque sorte, encore une fois, ce n'est pas totalement transposable à l'Occident, parce qu'on est beaucoup plus individualiste, on vient d'une culture différente. Mais malgré tout, ça crée un lien émotionnel dans les équipes qu'on a beaucoup perdu aujourd'hui en Occident.
Les épreuves qui forgent le caractère, ce côté un peu parfois militaire aussi dans les entreprises. D'ailleurs, pas mal de chefs d'entreprise, de grandes entreprises, viennent du monde militaire.
Zhen Zhengfei, en tout cas, c'est certain. Pas tous dans la tech, pas tant que ça en dehors de Zhen Zhengfei. Mais c'est vrai que ça joue. Mais je dirais qu'au-delà de ça, c'est l'idée que ça ne suffit pas de coller des grands posters sur les murs en disant vision, mission, valeur, qu'il faut quand même qu'il y ait un véritable lien émotionnel entre les gens. Et curieusement et paradoxalement, en dépit en fait de toute cette concurrence interne et de cette relative dureté qu'on a décrit plus tôt, il y a cette relation émotionnelle.
Cette loyauté sans faille, mais en même temps, il vaut mieux en ce moment, particulièrement, ne pas être un dirigeant d'entreprise aux idées trop alternatives, être trop puissant. Stéphane Lagarde, on sait bien que l'entreprise et la politique sont deux sujets assez indissociables.
Oui, et puis surtout, on a l'impression, parce qu'avec le capitalisme rouge de Deng Xiaoping, c'est 30 ans, enfin c'est 40 ans même, hein, de croissance à deux chiffres, d'ouverture à l'économie capitaliste, on a l'impression finalement qu'on se réveille aujourd'hui, en tout cas certains, il y a un vrai blues aujourd'hui du businessman européen qui se réveille, ou américain, j'en sais rien, mais enfin qui se réveille en se disant finalement c'est un pays communiste. Ça, c'est, bon là, on va voir le congrès, on va voir un nouveau comité permanent, mais ce qu'a mis en place Xi Jinping, c'est justement ça, hein, on parle de grande renaissance de la nation chinoise, c'est surtout de la grande renaissance du parti, toute l'émancipation qu'il y a pu y avoir, ces sociétés privées justement incroyables en technologie. Je fais juste une parenthèse, Bruno, parce que moi, j'en reviens toujours pas. J'habite ici depuis longtemps. Hier, j'ai découvert qu'il y avait un mini-robot à côté de chez nous qui venait, c'est dans le quartier des affaires, là, qui amène, je vais pas donner la chaîne de fast-food, mais qui amène, alors déjà, on peut se faire livrer, mais lui, il amène le midi, là, on peut aller chercher, avec un téléphone portable, on peut aller chercher son sandwich avec un robot qui est complètement autonome et qui arrive, un espèce de petit camion rouge qui amène tout ça. Donc, il y a cette technologie qui s'est développée. Vous parlez de Huawei et de tous les autres. Hein. Mais en même temps, aujourd'hui, on l'a vu avec Jack Ma et avec les autres, le parti leur a dit c'est nous qui décidons, il faut la prospérité commune. Et donc, vous avez aujourd'hui, comme je dis, un blues du businessman, c'est vrai. Hein. On a toujours des investissements européens ici. Mais j'ai parlé encore ce matin avec des chefs d'entreprise ici, en tout cas des PME, hein, pas des grands groupes, et qui me disaient, on ne sait pas où on va aujourd'hui, on est vraiment dans le doute. L'idéologie, encore une fois, il n'y a pas que le zéro Covid, mais même le reste, est-ce qu'on est encore dans une société capitaliste ? Voilà, donc il y a vraiment un doute et une inquiétude, parce que le parti a repris la main sur le privé.
Le business fait peur au pouvoir chinois, Sandrine Zerbib ? C'est pas vraiment le sujet de votre livre.
Mais c'est un sujet très important et tout à fait d'actualité. Oui, alors c'est pas le business, c'est la puissance. Alors il y a deux choses. D'abord, il y a la puissance de certains groupes qui fait peur. C'est un petit peu comme Google nous fait peur, comme Facebook nous fait peur. Mais pousser beaucoup plus loin, parce que là, il y a vraiment un sentiment de rivalité avec le rôle du parti. Donc il y a ça. Et puis de toute façon, c'est clair que, on va dire les choses en clair, hein, quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il a d'abord mis l'accent sur les aspects politiques du retour en force du parti. Mais dans un deuxième temps sur les aspects économiques. Donc en fait, on est passé un petit peu à côté au début parce qu'on s'est dit, pour l'instant, l'économie n'est pas touchée. Mais effectivement, depuis, on va dire, 2017-18, ensuite il y a une interruption Covid, mais ça s'est vraiment accéléré 2021. Toutes les réformes économiques ou de régulation ou de réglementation qui ont eu lieu, elles visent à remettre le parti dans les entreprises privées.
Est-ce que la situation actuelle, globale, alors il y a la situation en Chine, cette politique zéro Covid, les problèmes commerciaux avec le reste du monde, cette guerre en Ukraine, d'autres problèmes encore plus globaux, est-ce que tout cela peut remettre en cause le formidable essor du secteur privé en Chine auquel on a assisté depuis 20 ou 25 ans ?
C'est pas impossible, on va dire. Je pense qu'il y a quand même de vrais garde-fous. On va voir aussi ce que va donner le Congrès, qui va être appointé au poste vacant du Politburo et du Comité central. Est-ce que ce sont des gens qui seront à même d'apporter quelques inflexions en fait à la politique, au moins économique, à la politique politique, j'y crois pas. Mais économique, c'est possible. L'autre garde-fou, c'est malgré tout qu'aujourd'hui, on a une classe moyenne qui n'est pas négligeable et on ne peut pas aller aussi vite, je dirais, dans le retour en arrière avec une classe moyenne qui a certaines aspirations à certains modes de vie qu'on aurait pu le faire quand on avait que des gens qui vivaient dans la misère, on va dire. Donc tout ça, ce sont des garde-fous. Mais malgré tout, on n'est pas dans la bonne direction.
Stéphane Lagarde, ce congrès, il va certainement évoquer les questions économiques. Est-ce que, effectivement, comme le suppose Sandrine Zerbib, est-ce qu'il peut y avoir une remise en question, au moins partielle, de la politique économique qui est menée depuis quelques mois ou quelques années ?
Bon, c'est déjà le cas, hein. C'est déjà une remise en question, une reprise de contrôle, on va dire, effectivement, des GAFAM ici, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, des grandes entreprises technologiques. Et un autre garde-fou que n'a pas évoqué Sandrine, c'est que là, évidemment, ils voudraient passer à une économie duale avec plus de consommation intérieure, c'est déjà le cas. Il y a cette classe moyenne qui s'est développée de façon fulgurante en 10 ans, mais on a quand même encore, c'est quand même un des pieds, enfin une des jambes de l'économie chinoise, ce sont les exportations, n'en déplaise d'ailleurs au gouvernement central qui aimerait limiter les exportations. On est toujours sur cette économie d'exportation. La Chine est très dépendante de l'Europe, si vous voulez, hein. Elle doit quand même écouler ses produits, donc ils ne peuvent pas arrêter le capitalisme du jour au lendemain.
Sandrine Zerbib.
Alors, je suis d'accord jusqu'à un certain point. Par contre, je ne pense pas que ce soit pas du tout le souhait des autorités. Je pense que les autorités, ce qu'elles veulent, c'est être autonome pour ce qui est de l'intérieur, mais rendre le reste du monde dépendant de la Chine. Donc, c'est ça l'économie, enfin, c'est ça la circulation duale, hein. Donc, en fait, je ne pense pas qu'ils soient mécontents de ce qui se passe dans les exports. Et effectivement, les exports restent extrêmement dynamiques, on l'a vu, en dépit de tous les discours qu'on peut lire et entendre sur je sais pas comment on dit en français d'ailleurs, le decoupling, le fait de séparer, enfin de...
Découplage.
Le découplage, pardon. Le découplage entre, en tout cas, les États-Unis et la Chine.
Et on le voit actuellement avec la question de Taïwan, hein, qui cristallise aujourd'hui, en tout cas, la difficulté de ces relations entre la Chine et le monde occidental, avec une question stratégique, celle de l'approvisionnement en puces électroniques.
Absolument, mais
qui fait vaciller les bourses.
Oui, qui fait vaciller les bourses et qui met aussi la Chine en position compliquée parce que la Chine n'est pas encore au point, en tout cas sur la production de puces électroniques.
Vous êtes quand même optimiste pour de bonnes relations entre les Chinois, les autres grandes puissances asiatiques, parce qu'il y a ça aussi, hein, il n'y a pas que Chine, États-Unis, Chine, Europe.
Je suis pas très optimiste, mais je pense que les garde-fous sont pas négligeables. Je le dirais comme ça.
Merci à vous, Sandrine Zerbib.
Merci, merci beaucoup.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Dragon Tactics, aux éditions Dunod. Merci aussi à vous, Stéphane Lagarde. Bonne journée à Pékin.
Bonne journée, au revoir.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Bruno Faure.
Cette Chine qui réfléchit à son avenir, dispositif spécial sur RFI et RFI.fr. À l'occasion de ce 20e congrès du Parti communiste, reportage de Stéphane Lagarde et analyse, ce lundi, Aujourd'hui l'économie parlera de la crise de l'immobilier chinois. Un peu plus tard dans la semaine, toujours avec Dominique Bayard, il sera question des nouvelles routes de la soie. Le projet est-il enterré avec la situation internationale? Dans Afrique Économie, Charlotte Cosset, les mines d'or en RDC, comment sortir de la domination chinoise? Et puis notre chronique des matières premières avec Altine Lazage, la stratégie chinoise sur les métaux rares.
RFI, les voix du monde.
Et c'est vrai que dans cette économie ultra mondialisée, les problèmes des uns sont aussi les problèmes des autres. L'inflation et la volatilité des prix, phénomène global, phénomène qui touche particulièrement le continent africain, au cœur des prévisions publiées cette semaine par le FMI, au cœur aussi de notre second entretien. Bonjour Luc Hérault.
Bonjour.
Vous êtes le chef des études régionales pour l'Afrique au Fonds monétaire international. Quelles sont les zones, quels sont les pays qui vous préoccupent le plus?
Je dirais que l'activité économique dans l'Afrique, dans son ensemble subsaharienne, a décéléré beaucoup cette année en 2022. On a une croissance qui a baissé de 1 point, de 4,7% en 2021 à 3,6% en 2022. Et je dirais que la décélération est relativement généralisée dans l'ensemble de la zone. Et cette décélération, elle est liée à une conjonction de trois chocs qui eux-mêmes sont aggravés par la guerre en Ukraine. Le premier choc, c'est un ralentissement de la croissance mondiale qu'on observe aujourd'hui dans les pays avancés, en Chine aussi. Le deuxième choc, c'est la hausse des taux d'intérêt internationaux qui est liée à la hausse de l'inflation dans l'ensemble des pays du monde. Et enfin, le troisième choc, c'est une volatilité très forte des prix des matières premières. Et la conjonction de ces trois chocs fait que la zone Afrique a ralenti de façon significative cette année par rapport à l'an dernier.
Quels sont les leviers principaux, selon vous, pour lutter contre ces phénomènes et particulièrement contre l'inflation?
Alors, dans la zone de l'Afrique subsaharienne, en effet, l'inflation a beaucoup augmenté. Elle est aujourd'hui d'à peu près 9%. C'est une hausse qui est très significative. Elle était de 4-5% avant le début de la pandémie. On a un ensemble de pays où l'inflation est à deux chiffres, hein, comme le Ghana, par exemple. Et donc, qu'est-ce que les États peuvent faire pour lutter contre cette inflation? Je dirais deux choses. D'abord, on lutte sur les causes de l'inflation. C'est ce que font les banques centrales dans l'ensemble des pays africains, comme les banques centrales des pays avancés. Elles remontent les taux d'intérêt. Dans les banques centrales d'Afrique, on a remonté les taux d'intérêt depuis la deuxième moitié de 2021 et on a à peu près deux tiers des pays qui ont relevé leurs taux. Ce sont des mesures qui prennent du temps. La politique monétaire a une transmission sur l'inflation qui est relativement longue. Mais on s'attend quand même à ce que l'inflation baisse à partir de l'an prochain, du fait de la baisse des prix internationaux. Parce que l'inflation en Afrique, c'est principalement une inflation qui est liée au prix de l'alimentation et au prix de l'énergie. Ensuite, il n'y a pas que les banques centrales qui agissent. Il y a aussi les gouvernements, les ministères qui, eux, essayent de faire en sorte d'atténuer l'effet de la hausse des prix sur les populations les plus vulnérables. Donc en Afrique, on a vu tout un ensemble de pays, y compris des mesures, des baisses de fiscalité sur les produits alimentaires, sur les carburants, des contrôles de prix, des restrictions à l'exportation et des mesures pour essayer de limiter la hausse des prix. En Afrique, ces mesures, elles sont généralement très peu ciblées parce qu'on n'a pas vraiment un bon nombre de pays africains n'ont pas vraiment la capacité d'avoir des systèmes de transferts sociaux très ciblés où on peut vraiment exactement donner le transfert aux populations les plus fragiles. Donc ce sont des mesures qui généralement sont plus larges, qui touchent une grande partie de la population. Et donc, elles sont évidemment très coûteuses à cause de cela. Et donc, ces mesures qui sont nécessaires et tout à fait légitimes compte tenu de l'urgence devront, à un moment donné, évidemment, être éliminées par les pays dans la mesure où elles sont extrêmement coûteuses et que les finances publiques des pays africains sont très fragiles en ce moment.
Vous avez parlé de la fiscalité et de l'action des États et des gouvernements en termes de fiscalité. Le FMI a alerté cette semaine en disant « la hausse des prix alimentaires et de l'énergie représente un risque social pour les États, certes, mais tenter de maîtriser l'impact avec des baisses d'impôts, avec des subventions ou avec des contrôles des prix pourrait s'avérer trop lourd pour les finances publiques ».
Oui, en effet. Donc, c'est lié au fait que donc ces aides qui sont complètement légitimes que les pays africains mettent en œuvre, et comme elles touchent tout le monde, elles sont évidemment très coûteuses. Et à terme, il faudrait mieux les remplacer par des mesures beaucoup plus ciblées qui toucheraient les populations les plus vulnérables.
Donc, vous dites attention aux baisses d'impôts, c'est potentiellement dangereux. Ça peut être séduisant, mais c'est dangereux.
C'est pas dangereux. Je dirais que dans le cadre actuel, ce sont des mesures qui sont nécessaires parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 123 millions d'individus en Afrique subsaharienne qui sont en situation d'insécurité alimentaire sévère. Donc, il faut aider ces populations et il faut les soutenir.
Donc, il faut quand même trouver des solutions pour, à terme, lever davantage de fiscalité. On sait que c'est une vraie difficulté dans beaucoup de pays africains.
Alors, tout à fait. La mobilisation, ce qu'on appelle, nous, la mobilisation des revenus, est un enjeu primordial pour l'Afrique. Aujourd'hui, si on regarde le ratio de revenus sur PIB, il est de 20% dans les pays africains, alors que dans un pays avancé, il est de 40%. Donc il y a une marge d'augmentation des revenus qui est extrêmement forte. Le fait que les revenus soient très bas est un problème pour l'Afrique. C'est un problème parce que ça fait moins de financement pour les dépenses prioritaires, pour l'éducation. Et c'est un problème aussi parce que les pays ont aussi des problèmes pour s'endetter, dans la mesure où ils ont très peu de revenus, les créditeurs ne veulent pas leur prêter. Donc, augmenter la mobilisation des revenus en Afrique, c'est vraiment une priorité.
Je voudrais qu'on aille au plus proche des populations et entendre un exemple en Tunisie où il y a une vraie préoccupation, c'est l'approvisionnement en carburant. On a eu des pénuries de farine, de sucre ou encore de lait, mais là, c'est l'essence qui vient à manquer. Le pays vit au ralenti. Il y a des conséquences pour l'ensemble de l'économie. Un reportage de notre correspondante pour Éco d'ici, Éco d'ailleurs, Amira Souilem à Tunis.
Scène de la vie quotidienne depuis près d'une semaine à Tunis, des files d'attente s'étendent parfois sur des centaines de mètres devant les stations-service de la capitale.
Je cherche à faire le plein depuis hier. On m'a dit qu'il y aurait de l'essence à midi, alors je suis venu à midi. Et on va voir si la station a enfin été ravitaillée.
Sous surveillance policière, de l'essence a bien été déchargée dans cette station. Un répit de courte durée, selon cet employé de la station.
On vient de recevoir 5000 litres. On a de quoi tenir encore 2 heures environ. Mais dans 2 heures, il ne restera plus une goutte d'essence.
Depuis le début des pénuries, c'est tout un pays qui tourne au ralenti. Et la situation pourrait durer, à en croire Ravi Meddeb, économiste.
Il y a 3 ou 4 postes de dépenses où l'État doit faire face en devises. Ce sont les médicaments, les carburants, les céréales et le service de la dette. Autant en dinars, l'État peut trouver des compromis avec la banque centrale, avec le système bancaire local, autant en devises, ces possibilités sont extrêmement réduites. Sur les derniers mois, le gouvernement a tapé dans les stocks stratégiques. Donc on a quasiment plus de stocks stratégiques. On est au fil de l'eau dans quelque chose d'essentiel pour l'économie.
Fortement endettée, la Tunisie est actuellement en tractation avec le FMI pour l'octroi de nouveaux prêts. Amira Suilem, Tunis, RFI.
Luc Hérault, chef des études régionales pour l'Afrique au Fonds monétaire international. À entendre ce reportage, on voit bien que tous les problèmes sont mêlés. L'approvisionnement en carburant, les questions d'inflation, les questions monétaires, les questions de dette pour un pays comme la Tunisie.
Oui, en effet, c'est un reportage extrêmement intéressant et qui touche sur plusieurs sujets qui sont très importants pour l'Afrique aujourd'hui. Le premier, c'est celui du coût de l'énergie qui a augmenté beaucoup pour les pays africains. Vous le savez, les prix du baril qui sont quasiment le double de ce qu'ils étaient il y a quelques années. Les prix domestiques n'ont pas forcément autant augmenté parce qu'il y a beaucoup dans les pays d'Afrique, il y a beaucoup de subventions au prix du pétrole et ces subventions sont assez coûteuses. Au FMI, on estime qu'elles coûtent à peu près 1,5 de PIB en moyenne par an aux États africains et ça permet quand même d'atténuer l'effet des hausses des prix internationaux sur les prix des produits domestiques. Mais comme vous l'avez montré, il y a des pénuries très importantes dans plusieurs pays, y compris des pays qui sont producteurs de pétrole comme le Nigeria, à Lagos, on a vu en effet des files d'attente devant les stations-service. On l'a vu aussi à Madagascar, on l'a vu à Kinshasa, on l'a vu à Bujumbura. Donc c'est vraiment un sujet très important pour les pays africains. En ce qui concerne le coût des emprunts aussi, c'est un véritable défi pour les pays actuellement. Beaucoup de pays africains empruntent sur les marchés internationaux et ces marchés internationaux se sont quasiment fermés à eux ces derniers mois. On a des spreads, c'est-à-dire ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire la différence entre le coût d'un emprunt international pour un pays africain et le coût moyen d'un emprunt équivalent aux États-Unis, qui sont de plus de 1000 points de base. Ça veut dire 10% supérieur à un taux d'emprunt aux États-Unis. On voit ça, par exemple, en Zambie, on voit ça en Éthiopie, au Ghana, au Mozambique, au Nigeria, au Kenya, enfin, dans beaucoup de pays, les spreads ont augmenté et les pays ont des grandes difficultés pour accéder aux marchés internationaux.
Avec des conséquences encore plus dramatiques pour les pays dont les monnaies locales s'affaiblissent, sont fortement dépréciées pour certaines. Le Ghana, le Malawi, la Sierra Leone, par exemple, sont des pays où la situation est la plus préoccupante.
Oui, en effet, il y a un très grand nombre de pays africains ont vu leur monnaie se déprécier de façon très forte vis-à-vis du dollar. Et vous avez donné l'exemple du Ghana, qui est probablement l'exemple le plus criant, où la monnaie s'est dépréciée de 40% depuis le début de l'année vis-à-vis du dollar. Ça pose un certain nombre de problèmes aux pays africains. Le premier, le plus important, je dirais, c'est que la dépréciation augmente de façon très significative le prix des importations et notamment le prix des produits alimentaires. La deuxième question que ça soulève, c'est celle de la dette, parce qu'un bon nombre de pays africains ont une dette libellée aussi en devises et en dollars, et donc le coût de la dette augmente beaucoup quand on a une dépréciation du change. Donc ça crée des défis macroéconomiques assez forts pour les pays, en effet, les dépréciations de change.
Luc Hérault, le FMI peut jouer un rôle de régulateur face à ces difficultés monétaires et ces difficultés dans la capacité à rembourser la dette ?
Alors oui, le FMI essaye d'aider les pays. On est présent actuellement avec des programmes dans 22 pays d'Afrique subsaharienne sur 45, donc à peu près la moitié des pays d'Afrique subsaharienne est en programme avec le Fonds monétaire international. Et on aide en effet les pays avec tout un ensemble de dispositions, d'abord du Conseil de politique économique, des financements. Depuis le début de la crise, le FMI a fourni 50 milliards de financements à l'Afrique subsaharienne, 50 milliards de dollars. Et dans le cadre de la crise alimentaire, on vient de lancer un guichet choc alimentaire. On va fournir des financements aux des pays qui ont des problèmes de crise alimentaire sévère. pour les aider à surmonter cette crise.
Et pour ajouter à cette crise alimentaire, une préoccupation qui ne concerne pas que l'Afrique, mais qui concerne particulièrement l'Afrique tout de même, la préoccupation climatique. Pas mal de catastrophes, de sécheresses, d'inondations ces dernières semaines et ces derniers mois, un coût de plus en plus important. Est-ce que c'est pris en compte dans les prévisions du FMI et quel est votre diagnostic par rapport à ça?
Oui, en effet, l'Afrique subsaharienne, c'est la région du monde probablement la plus vulnérable au changement climatique. Il y a des hausses de température très fortes, il y a des événements climatiques extrêmes, des inondations, des sécheresses. On voit vraiment beaucoup d'exemples de cela récemment. Il y a des cyclones tropicaux qu'on a observés à Madagascar, au Mozambique. Le Sahel est sujet à une désertification. Donc c'est un phénomène mondial, mais qui a un impact extrêmement fort sur l'Afrique. C'est un impact à plusieurs niveaux, je dirais. D'abord, un impact sur l'insécurité alimentaire. Et en fait, on voit d'ailleurs qu'une sécheresse très forte qui se dans la corne de l'Afrique actuellement a nettement aggravé l'insécurité alimentaire dans la région. Ça a aussi d'autres effets, par exemple sur les maladies qui sont transmises par les moustiques, comme malaria, dengue, zika, qui sont évidemment, il y a des risques accrus quand il y a du changement climatique, et notamment des inondations et de l'humidité. Il y a des effets évidemment sur le secteur agricole. Le secteur agricole est très important en Afrique, et dans certains pays, il constitue plus de la moitié du produit intérieur brut et de la production, au Tchad par exemple. Donc on a des effets qui sont forts. Ça va même jusqu'à des effets plus compliqués, comme des effets de conflit aussi. Le changement climatique crée des migrations aussi en Afrique, du fait des inondations et des sécheresses. Et ces migrations amènent à des conflits entre populations. On voit ça très bien dans le Sahel, où il y a actuellement des conflits entre les agriculteurs qui sont sédentaires et les éleveurs nomades, dont les migrations ont changé du fait du changement climatique.
Rien de très réjouissant dans ce que vous nous dites. Il y a quand même des évolutions positives, ou en tout cas une mobilisation dans certains pays africains, et notamment une évolution notable de ces dernières années, et qui a des conséquences économiques. C'est la poussée du mobile money, les transferts d'argent, la finance via des terminaux qui appartiennent à chacun des consommateurs. Est-ce que ça, c'est susceptible de relancer les économies africaines? Vous en parlez dans votre rapport.
Oui, je pense qu'on parle dans le rapport, en effet, des innovations numériques en Afrique. Ces innovations sont extrêmement importantes en Afrique pour deux raisons principales. La première, je dirais, c'est que les États essayent de donner des services financiers toujours plus importants à leur population. Vous savez, une bonne partie de la population en Afrique n'a pas accès à une banque. Et donc, par ces innovations, et notamment le fait d'avoir des services bancaires sur son téléphone, on donne accès à toute une partie de la population, à des services financiers, comme le fait de pouvoir faire des paiements ou pouvoir faire des transferts. Et la deuxième, je dirais, grande motivation, c'est qu'on a aussi beaucoup de migrants qui habitent dans des pays extérieurs à l'Afrique. Et pour transférer de l'argent en Afrique, ils utilisent en effet des applications mobiles. Et ces applications mobiles leur permettent de faire des transferts à des coûts bien inférieurs.
Avec un autre phénomène qui, pour certains, est vu comme quelque chose d'inquiétant, c'est la poussée des crypto-monnaies, des initiatives dans tel ou tel pays. Est-ce que le FMI voit plutôt un risque ou une opportunité dans ce nouveau phénomène monétaire?
Alors, je dirais que de toutes les innovations de monnaie digitale, celle de l'argent mobile est probablement celle qui a le plus grand potentiel. Déjà, il est très présent en Afrique. Vous savez, l'Afrique est vraiment à la frontière dans l'usage du téléphone mobile pour les activités bancaires. Vous avez l'exemple, par exemple, de M-Pesa, qui est le grand opérateur du Kenya, qui est présent dans toute l'Afrique de l'Est et très important dans ce développement de l'argent mobile en Afrique. Les crypto-monnaies, c'est plus compliqué. Les crypto-monnaies permettent aussi, en effet, de faire des transferts par voie électronique et permettent aussi de faire des paiements. Mais je dirais que ça pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, on a vu récemment que la République centrafricaine a adopté le Bitcoin comme monnaie légale de façon unilatérale, alors qu'elle est dans une union monétaire avec les autres pays de la CEMAC, qui compte 6 pays. Et il faut faire très attention. D'abord parce que la valeur des crypto-monnaies fluctue énormément. Donc on a des risques de pertes très importantes pour un consommateur qui achèterait des crypto-monnaies en pensant que c'est un bon investissement, mais leur valeur a chuté de façon très importante récemment. Et ensuite, pour les pays, je dirais que c'est aussi très compliqué parce que ça pose des risques très forts sur la conduite de la politique monétaire et même sur la stabilité et la viabilité des finances publiques. Enfin, avec les crypto-monnaies, il y a un sujet très important sur la criminalité. Les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour faire des financements d'activités illégales ou criminelles. Et donc, en général, le FMI dit qu'il faut regarder ces crypto-monnaies avec beaucoup de précautions et beaucoup d'attention et faire un gros travail préparatoire dans le cadre de leur régulation.
Merci, merci à vous, Luc Hérault, chef des études régionales pour l'Afrique au Fonds monétaire international. Vous étiez en ligne de Washington dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Face à cette situation peu engageante, quelles solutions à court et à moyen terme? Un autre avis, assez rapide, celui de l'économiste togolais Kako Nubukpo.
Ce qui est faisable, et on l'a fait au moment de la crise financière de 2008, c'est de se dire qu'il va y avoir un phénomène de solidarité internationale pour que les banques centrales qui manqueraient de devises puissent y accéder via la Banque des règlements internationaux de Bâle, par exemple. Et si ça ne suffit pas, comme on l'a fait en 2008, faire une coordination des banques centrales internationales pour que les devises puissent être considérées comme un bien commun dans cette phase difficile que vit le monde. Et ensuite, il y aurait les discussions pour voir comment on traite cela. Une des pistes, ça a été en 2020, l'annonce de droits de tirage spéciaux, les DTS, que le FMI et les pays riches se sont engagés à rétrocéder. Et l'Afrique devait récupérer 5% de ces droits de tirage spéciaux. Moi, à l'époque, je m'étais insurgé parce que nous représentons 17% de la population mondiale. Mais le drame, c'est que nous sommes en 2022 et il n'y a toujours pas eu un dollar de versé au titre de ces droits de tirage spéciaux qu'on nous a promis. Donc, je crois que la question de la solidarité internationale devrait être une urgence parce que avec cette crise, il y a beaucoup, beaucoup de populations qui sont en situation très difficile.
Kako Nubukpo, qui publie un nouveau livre, Une solution pour l'Afrique, du néo-protectionnisme au bien commun, paru aux éditions Odile Jacob. Nous l'inviterons bientôt dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, pour en parler plus longuement. Et comme souvent dans cette émission, un conseil d'écoute. Cette semaine, le grand reportage d'Alexis Bédu du service économie de RFI avec les livreurs Uber Eats, des sans-papiers qui réclament leur régularisation, avec les chauffeurs de VTC de plus en plus nombreux et donc de moins en moins payés. Reportage itinérant dans les rues de Paris.
Place de la République, Paris 10e arrondissement.
Ok, on va dire qu'à l'heure qu'il est, à 10h30, on est 400. Il faudra qu'on soit plus que ça.
Alignés okay. Pour se compter, face donc, à la statue de Marianne. Dans leur rang ce matin de septembre, les téléphones ne servent pas à prendre des commandes, mais à se filmer en direct sur Snapchat. Pour ces livreurs sans papier, c'est le début de la lutte. 2500 d'entre eux ont été déconnectés de l'application à la fin de l'été.
Le premier slogan, c'est « Les livreurs en colère ». Ont cassé la marche arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait plus demi-tour. Les livreurs en colère ont cassé la marche arrière. Les livreurs
en colère ont cassé la marche arrière.
Pendant la Covid, c'était facile. Tu viens et on t'accepte, tu travailles. Nous, on a risqué notre vie pour rendre service à Uber ou ici aux populations françaises. Pendant cette période-là, c'est pas maintenant qu'ils vont voir que les documents que nous avons fournis sont faux.
Quand ils vont complet.
Vous vous imaginez, vous travaillez pour quelqu'un durant 2 ans, 3 ans, du jour au lendemain, sans aucune notification, sans un avertissement, il vous met à la porte. Vous avez des enfants, vous avez des charges, il vous met au chômage du jour au lendemain. Sans un mot, sans droit, sans rien, vous faites comment?
Livreur sans papier, chauffeur mal payé, quand le modèle Uber vacille. Grand reportage d'Alexis Bédu à retrouver sur le site internet de RFI. Et puisque nous sommes dans le trafic automobile, sachez qu'Écho d'ici, Écho d'ailleurs prendra le volant la semaine prochaine à l'occasion du Mondial de l'Auto qui revient à Paris. Émission qui évoquera les évolutions majeures que connaît ce secteur en Europe et en Afrique. Restez connectés, RFI Écho sur Facebook et sur Twitter. Bonne journée, bonne soirée sur RFI, portez-vous bien.
Éco d'ici, éco d'ailleurs, vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.